Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Jésus prie pour nous avec ses plaies. Dans son homélie, le pape a expliqué que le Christ était le premier avocat à nous défendre devant Dieu, revenant longuement sur la prière d'intercession. Au Vatican, la 37e convocation du renouveau charismatique a pris fin lundi soir au lendemain de la rencontre du stade olympique entre 50 000 de ses membres et le pape François. Monseigneur Brugès regrette le choix de prénom insignifiant. Il voudrait que le calendrier des saints soit une source d'inspiration. L'archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine l'a affirmé ce mardi lors d'une messe pour la France célébrée dans la basilique Saint-Pierre. Et puis dans ce magazine, nous donnons aussi la parole à Mohamed Moussaoui, l'actuel président du Conseil français du culte musulman, témoigne de son inquiétude face aux dérives djihadistes en France. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine en langue française de Radio Vatican. Commençons tout de suite par la messe célébrée ce mardi matin dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe au Vatican, messe célébrée par le pape François. Jésus prie pour chacun de nous en montrant au Père ses plaies. Le pape a tenu à souligner que Jésus est notre avocat, le premier qui nous défend même si nous avons commis de nombreux péchés. Manuela Afidji.
Citant les paroles de l'apôtre Jean, le pape invitait les fidèles ce mardi à ne pas pécher, mais, dit-il, si quelqu'un parmi vous pêche, sachez que nous avons un avocat devant le Père, quelqu'un qui prie pour nous, nous défend, nous justifie. Je crois que nous devons beaucoup réfléchir sur cette vérité, cette réalité, explique le pape. En ce moment, Jésus prie pour moi. Je peux aller de l'avant dans la vie parce que j'ai un avocat qui me défend, et si moi je suis coupable et j'ai tellement de péchés à confesser, c'est un bon avocat pour la défense et il parlera de moi au Père. Quand nous, en paroisse, à la maison, en famille, nous avons l'un ou l'autre besoin ou quelques problèmes, a poursuivi le pape. Nous devons demander à Jésus de prier pour nous. L'adieu de Jésus, l'adieu de saint Paul. Les lectures du jour ont en effet offert au pape François une occasion pour parler de la prière d'intercession. Soyons certains, a conclu le pape, que Jésus est en train de faire cela pour chacun de nous. Nous devons avoir confiance, a conclu le pape, en cette prière de Jésus avec ses plaies devant le Père.
Cinquante-cinq pays membres étaient représentés ce dimanche au stade olympique de Rome où étaient rassemblés quelques 52 000 membres du renouveau charismatique dont la 37e convocation a pris fin lundi soir. Dimanche, le pape a prononcé un long discours où il a rendu hommage au courant, à l'action du renouveau charismatique, à la diversité de ses charismes. Mais il a également mis en garde ses membres contre certaines dérives, les luttes internes, une excessive organisation ou encore le fait de vouloir contrôler la grâce de Dieu. Ce discours, à sa première lecture, a des tonalités de rappel à l'ordre, mais en prenant un peu de recul, on peut au contraire en sentir le souffle. C'est ce qu'a ressenti à sa lecture Monseigneur Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne, issu des rangs du renouveau charismatique. Pour lui, il ne s'agit donc pas d'un rappel à l'ordre, mais surtout de points d'attention.
Il rappelle que Jésus est le seul chef, et dans un groupe, il y a de temps en temps la tentation du pouvoir, la tentation de penser que c'est nous qui détenons vraiment le discernement, c'est nous qui détenons le meilleur charisme, etc. Ou bien, effectivement, la tentation structurée de s'appuyer plus sur l'organisation que sur Dieu lui-même, que sur l'Esprit-Saint lui-même, et donc d'empêcher l'Esprit-Saint de se déployer en nous et de l'empêcher de nous conduire sur des chemins nouveaux. Si vous voulez, on voit bien que les chrétiens que nous sommes ont sans cesse besoin d'une conversion, et que la tentation, c'est toujours de s'installer, d'une manière ou d'une autre, soit à travers le pouvoir, soit à travers l'organisation. La tentation aussi, c'est la tentation de céder aux divisions, céder aux querelles, et donc il y a un travail à faire. Le pape attend cela aussi du renouveau charismatique, l'unité dans le courant renouveau charismatique, l'unité dans l'Église, l'ouverture œcuménique. Donc l'Esprit-Saint est esprit d'unité, donc comment être docile à l'Esprit-Saint pour mettre vraiment au service les uns des autres, au service de l'unité, la diversité des dons reçus.
Et qu'est-ce que nous apprend donc ce discours sur la vision qu'a le pape François du renouveau charismatique.
Quand il était archevêque de Buenos Aires, pendant un temps, il a été assez réservé, disons, vis-à-vis de ce courant. Toujours est-il qu'il en a perçu la grâce de fond. On sent qu'il veut vraiment que ce courant soit au service de l'ensemble de l'Église, que cette expérience de l'accueil de l'Esprit-Saint, cette expérience d'une rencontre amoureuse avec Jésus soit faite par tous les chrétiens pour le renouveau de la communauté ecclésiale et pour l'évangélisation du monde. Pour moi, c'est une vision positive et un discernement dans l'Esprit-Saint, justement, où il voit la grâce qui a été faite par Dieu à l'Église à travers ce courant et comment cette grâce doit encore se développer, s'approfondir, et cela suppose que les membres du renouveau soient eux-mêmes fidèles à cette grâce.
Et donc nous venons de parler de la vision du pape François, et qu'en est-il par rapport à ses prédécesseurs ?
Depuis le pape Paul VI qui avait dit que le renouveau était une chance pour l'Église, les prédécesseurs ont toujours été attentifs et encourageants, en donnant des points de repère, avec leur mission de vigilance aussi, en évitant au renouveau de tomber dans certains travers, resituant bien justement le renouveau à l'intérieur de l'Église catholique, dans l'Église, pour l'Église et pour le monde. Donc je pense qu'il y a une réelle continuité avec ses prédécesseurs. Alors chacun ensuite avec sa grâce propre, mais au moins depuis que ce courant est apparu dans l'Église catholique, on sent que les papes, comme des bons pasteurs, ont discerné, ont accompagné ce courant, l'ont encouragé, ont pointé les risques éventuels, connaissant bien la nature humaine, connaissant bien l'Église étant experte en humanité, elle sait les défauts et les travers dans lesquels on peut tomber. Et donc je trouve que l'intervention du pape François va tout à fait en continuité avec ses prédécesseurs.
Monseigneur Guy de Kerimel, l'évêque de Grenoble, Vienne, des propos recueillis par Audrey Radondi. Trois jours après la fête de Sainte Pétronille, l'une des saintes patronnes de la France, une vierge romaine et martyre du 1er siècle considérée comme la fille spirituelle de Saint-Pierre, une messe pour la France a été célébrée dans la basilique Saint-Pierre, dans la chapelle Sainte Pétronille, donc présidée par Mgr Jean-Louis Bruguès. Dans son homélie, le prélat français, archiviste bibliothécaire de la Sainte Église romaine, a invité les fidèles à donner des prénoms de saints aux enfants. Bernard de Cotigny.
Pour Mgr Bruguès, donner un nom de saint à un enfant signifie le faire entrer dans une famille plus grande. C'est lui donner un frère ou une sœur aînée dans la foi, dans l'histoire, dans l'avenir. Selon le prélat français, le prénom reçu au moment du baptême n'est pas seulement un signe de reconnaissance sociale. Il agit d'une manière qui nous reste mystérieuse, mais que l'Église assure être efficace dans la construction même de notre personnalité psychologique et morale. L'archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine a regretté ainsi la multiplication des prénoms insignifiants dans les registres de baptême. Le calendrier chrétien ne ferait-il plus recette, s'est-il interrogé. Pourquoi cette ombre immense portée sur nos saints? Et le prélat d'insister et de conclure, le temps n'est-il pas venu de redonner aux saints la place qui leur revient?
Les opposants en exil, l'OTAN ou les Occidentaux dénoncent une farce. D'autres, au contraire, parlent d'un moment clé pour l'avenir de la Syrie. Ce mardi 3 juin, une élection présidentielle sous les bombes. Des obus tirés par les rebelles sont tombés sur les quartiers centraux de Damas. De son côté, le régime a mené des raids en périphérie de la capitale. Son vrai rival, Bachar al-Assad, veut renforcer son leadership. Le taux de participation sera déterminant, mais des urnes à l'appel, le chemin est encore long. Seules les zones sous contrôle du régime ont voté, tandis qu'à Raqqa, au nord, les miliciens de l'État islamique d'Irak et du Levant conquièrent du terrain. Plus encore, dimanche, la formation djihadiste a confisqué des maisons appartenant à des familles chrétiennes dans la zone d'Ain al-Issa, habitée en majorité par des chrétiens arméniens. D'ailleurs, sur place, la principale église arménienne du chef-lieu est d'ores et déjà transformé en un bureau pour la gestion des affaires islamiques et la promotion de la charia. Le prétendu État islamique a également organisé par le passé des actions symboliques telles que la destruction par le feu de Bibles ou de livres chrétiens. Dérive djihadiste en France, nous n'avons jamais été confrontés à un tel défi, c'est ce qu'a affirmé Manuel Valls ce mardi. Selon le Premier ministre français, plus de 800 Français ou citoyens résidant dans l'Hexagone sont concernés par la Syrie. Il existe, dit-il, bien entendu, en France, des terroristes potentiels comparables à Mohamed Merah, l'auteur de tuerie en 2012 dans le sud-ouest de la France, ou encore à Mehdi Nemouche, passé par la Syrie, soupçonné de la tuerie du musée juif de Bruxelles du 29 mai dernier. 2 ans après l'affaire Mohamed Merah, le profil de ce jeune homme de 29 ans venant de Roubaix ravive l'inquiétude bien sûr de la communauté juive mais aussi celle de la communauté musulmane de France. Mohamed Moussaoui est le président de l'Union des mosquées de France, le président honoraire du Conseil français du culte musulman.
La similitude avec les attentats tragiques de Montauban et Toulouse vient entretenir cette souffrance morale des musulmans de France face à l'instrumentalisation insupportable de la religion musulmane par ces terroristes. D'abord, l'image de l'islam est défigurée par ce type d'actes qui se revendiquent de l'islam. Puis bien sûr, nous sentons également une grande souffrance quand on voit nos concitoyens juifs visés par ces actes haineux, qui risque de créer, qu'on le veuille ou pas, des sentiments de rejet de part et d'autre. En tout cas, nous faisons tout pour que le dialogue entre musulmans et juifs continue d'une façon sereine, mais nous devons nous inquiéter. Il faut que les responsables musulmans entament une réflexion profonde et sérieuse sur d'abord les causes de cette radicalisation, comment ces jeunes sombrent et basculent dans cette voie, les met eux-mêmes dans une situation de perdition qui crée le désarroi chez leur propre famille et qui inquiète l'ensemble de nos concitoyens.
Donc vous appelez à des états généraux pour comprendre et endiguer ces dérives djihadistes.
Le profil qui se dégage aujourd'hui, ce sont souvent des jeunes qui sont quelquefois en rupture avec leur environnement familial, souvent en échec scolaire, souvent avec des parcours déjà de délinquance. Et c'est vrai que les imams, les aumôniers, avec d'autres évidemment, des anthropologues, des sociologues, des personnes même en charge de la petite enfance, qui puissent se mettre autour d'une table pour chercher ensemble les faisceaux d'indices qui permettent quelque part de décrire les quelques signaux d'alerte, est aujourd'hui important. Qu'on entame déjà cette réflexion, qu'il y ait une sorte de fiche qui pourrait sortir de ces débats, de ces réflexions, il faut qu'on commence déjà à réfléchir sur les solutions à apporter. C'est cette étude et cette réflexion qu'on n'a pas encore fait sérieusement.
Que ce soit Mehdi Nemouche ou Mohamed Merah, on parle d'un basculement, d'une dérive djihadiste qui se serait faite en prison. Il existe aujourd'hui 152 aumôniers musulmans en prison pour 191 établissements pénitentiaires. Est-ce que ces aumôniers se rendent compte de cette radicalisation dont on parle ?
Alors, lorsqu'on interroge les aumôniers, qui sont certainement en nombre insuffisant, pas souvent formés, pour déceler ces faisceaux d'indices de radicalisme, souvent, ils n'ont pas forcément les outils nécessaires pour comprendre ce qui se passe autour d'eux. Souvent, c'est des aumôniers qui ont été formés vraiment de base, qui leur permet d'accompagner les prisonniers qui demandent un accompagnement spirituel ou quelquefois diriger des prières au sein des prisons. Il y a évidemment des chefs ou des pseudo-chefs qui se manifestent dans les prisons et qui présente un certain nombre d'indices de radicalité en termes de pratiques extrêmes ou quelquefois de prosélytisme à outrance. C'est des cas très isolés, mais souvent la radicalité ne se fait pas forcément de cette manière-là. C'est là où je pense que la formation des aumôniers, des imams, face à ce nouveau phénomène, qu'ils ne le connaissent pas forcément, est une nécessité absolue aujourd'hui.
Mais alors, selon vous, où est-ce qu'elle se fait, cette radicalisation ?
Au niveau éducation, nous pensons que lorsque le jeune est encore, n'a pas encore basculé, il y a toujours la possibilité, avec des discussions, avec un encadrement religieux suffisant, parce que, il faut le dire, lorsqu'il y a une absence de formation offerte, le jeune, il va aller chercher la formation là où il peut la trouver. Et malheureusement, aujourd'hui, la toile, l'Internet présente un outil facile, accessible à tous, à l'écart de tout moyen de contrôle, et c'est là où le jeune peut basculer facilement. Et c'est pour ça que je dis que dans ce vide de formation, quelquefois il y a des jeunes qui veulent se former dans leur... Ils ont un besoin de spiritualité, un besoin de connaître leur religion, et si les imams ou les aumôniers ou les institutions religieuses d'une façon générale ne leur permettent pas d'avoir cette formation saine et transparente, ils vont aller la chercher ailleurs. Et lorsqu'ils vont aller la chercher ailleurs, ils tombent malheureusement dans les pièges des prédateurs de la toile Internet.
Est-ce qu'il y a des familles qui vous alertent dans les différentes mosquées, qui alertent les imams quand ils ont un proche comme ça qu'ils voient partir à la dérive?
Malheureusement, c'est rare où des familles se pensent à aller voir un imam ou un cadre religieux, une institution religieuse pour leur exposer leurs propres problèmes, parce que souvent ces jeunes qui sont en rupture avec leurs parents, même vis-à-vis des institutions religieuses, ne vient pas forcément à l'esprit des familles que ces jeunes sont, je dirais, endoctrinés par des personnes religieuses. Souvent, ils le découvrent tardivement. Le jeune déjà, il a basculé ou il est déjà parti dans la voie du terrorisme. Donc c'est pour cela que nous, on lance un appel aux responsables musulmans d'aller vers ces familles. Si ces familles ne peuvent pas venir vers les institutions à temps voulu, il faudrait que les responsables musulmans pensent et réfléchissent sérieusement sur les moyens d'apporter ce soutien à ces familles. Il ne faut pas qu'ils attendent que ces familles se manifestent. Si nous avons des imams bien formés et que l'institution religieuse rassure la population et que les familles sentent le besoin ou même, je dirais, l'assurance d'aller voir un imam bien formé parce qu'ils vont trouver chez lui une bonne écoute, un bon conseil, je pense que ça pourrait changer les choses.
Mohamed Moussaoui est le président de l'Union des mosquées de France, le président honoraire du Conseil français du culte musulman. Enlèvement non revendiqué en Afghanistan, le directeur de la section locale du Jesuit Refugee Service a été capturé ce lundi, on l'apprend seulement ce mardi, par des hommes armés, non identifiés. Un rapt qui a eu lieu dans le village de Soadat, à 25 km d'Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Au moment de son enlèvement, le père Alexis Prem Kumar, un jésuite d'origine indienne âgé de 47 ans, était en train de visiter une école pour des réfugiés afghans rentrant d'Iran et du Pakistan. À New Delhi, le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères a confirmé cet enlèvement. Le consulat indien à Herat ainsi que les forces de sécurité afghanes seraient d'ores et déjà à la recherche du prêtre qui a été donc enlevé lundi après-midi à l'ouest de l'Afghanistan. Deux mois après leur enlèvement, dans le diocèse de Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, par des individus là encore armés et non identifiés, trois missionnaires de prêtres italiens, une religieuse canadienne ont été relâchés dans la nuit de dimanche à lundi. Nous vous en avons déjà parlé, relâchés dans un village situé dans la zone d'Amchidé, tout près de la frontière poreuse du Nigeria, grâce à une intervention de militaires camerounais. En Italie, ce lundi, l'évêque de Vincennes, d'où viennent les deux prêtres italiens, avait hâte de les retrouver. Il est venu les accueillir à l'aéroport de Ciampino à Rome dans l'après-midi. Selon Mgr Beniamino Pizziol, Don Gian Antonino Allegri et Don Giampaolo Marta vont relativement bien, même s'ils semblent éprouvés et amaigris. L'ancien chef des militaires sera-t-il président? C'est ce qu'espère le vicaire apostolique d'Alexandrie en Égypte, alors que la commission électorale publie ce mardi les résultats officiels de la présidentielle organisée le 29 mai dernier. Pour Mgr Abel Zaki, l'Égypte a besoin d'une main ferme après 3 ans de chaos, ce sont ses mots, et Abdel Fattah al-Sissi est l'homme qu'il nous faut aujourd'hui. Pour nous chrétiens, son élection signifie plus de sécurité, de meilleures perspectives d'avenir, a expliqué l'évêque interrogé par aide à l'église en détresse. Le prélat voit dans la victoire de l'ancien maréchal un signe d'espérance. Dans aucun de ses discours publics a-t-il expliqué, Abdel Fattah al-Sissi n'a incité à la haine, au fanatisme religieux. Selon le vicaire apostolique d'Alexandrie, l'homme ne fait aucune distinction entre chrétiens et musulmans. Il souligne qu'il apprécie le fait que le général al-Sissi et destitué Mohamed Morsi en juillet dernier. Mohamed Morsi, le premier président élu de l'ère post-Moubarak, est membre des Frères musulmans, une confrérie qui a fait vivre des heures sombres aux chrétiens, rappelle Mgr Zaki. Quittons-nous enfin sur ce tweet du pape François. Ce mardi, il remercie en moins de 140 signes, comme d'habitude, tous les enseignants. Éduquer, écrit-il, est une mission importante qui rapproche beaucoup de jeunes du bien, du beau et du vrai. Et c'est sur ces paroles et ces remerciements aux enseignants que s'achève ce magazine. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous rendre pour plus d'informations sur notre site internet www.radiovaticana.va. Rendez-vous en attendant demain, même lieu, même heure pour une nouvelle émission.